Vous êtes sur Médien et on en parle de plus en plus, ce culte de l'apparence où quand l'estime de soi repose sur le regard de l'autre, de nos jours, cette apparence occupe une place standard. Alors on fait un zoom ce matin sur ces nouveaux standards justement de beauté. Comment évoluent-ils ? Les réseaux sociaux ont aujourd'hui un impact direct, essentiellement chez les jeunes de 12 à 34 ans. On en parle aujourd'hui avec vous, docteur Hartmann Lorabi, bonjour.
Bonjour et ravi comme d'habitude d'être avec vous pour traiter de ce sujet extrêmement intéressant comme à l'accoutumée.
Merci beaucoup. Alors je rappelle que vous êtes spécialiste en psychiatrie à Casablanca. Alors d'abord, docteur, comment peut-on définir ce culte de l'apparence ?
Le culte de l'apparence, on peut le définir assez simplement en disant que l'apparence accède immédiatement à la valeur de la personne. Hein, c'est-à-dire que le culte de l'apparence va avoir tendance à mettre toute la valeur d'un individu au niveau de ses attributs physiques, au niveau de son apparence physique. Et c'est vrai que, bon, le culte du corps, c'est quelque chose qui n'est pas récent. Mais dans notre contexte actuel, avec ce que la modernité a ramené de réseaux sociaux, de médias multiples, de manières de projeter l'image de notre corps à travers des écrans à qui on veut, à nos amis, à des connaissances. C'est vrai que maintenant on parle volontiers hein, de beaucoup plus du culte des apparences, comme vous le disiez très bien, ou du complexe lié au paraître. Hein. C'est la maladie du paraître. Il y a tous ces termes-là qui reviennent dans les articles qui ont essayé de traiter ça d'un point de vue psychologique, d'un point de vue philosophique, d'un point de vue sociologique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas récent. Parce que contrairement aux idées reçues, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement récent, avec les dernières générations, etc. Mais le problème des apparences, c'est quelque chose qui remonte à bien plus longtemps, au moins, je dirais, au tout début de la modernité, telle qu'elle est définie hein, par les Occidentaux, c'est-à-dire 18e, 19e siècle. Mais là, à ce moment-là, c'était d'autres apparences, c'était beaucoup plus des attributs matériels et financiers. Hein, c'est l'apparat, les habits. À l'époque, c'était les perruques, les belles parures, les bijoux, etc. Et ça a eu son importance parce qu'il s'agissait de se démarquer socialement, mais tout en s'intégrant dans un grand groupe. C'est-à-dire qu'au final, l'apparence, y compris aujourd'hui, est devenue un impératif pour se faire accepter par ses pairs, entre guillemets, pour se faire admettre dans le groupe social auquel on appartient, au risque d'être exclu. Donc, si vous voulez, toute cette problématique donc, d'apparence, en fait, elle renvoie, si vous me permettez une toute petite digression un peu philosophique, ça nous renvoie à la problématique du matérialisme. Du matérialisme, qu'est-ce que j'entends par matérialisme ? Ce n'est pas forcément, comme on le dit aujourd'hui, l'argent et les choses palpables qu'on peut acheter avec de l'argent, mais c'est tout ce qui ne relève pas de l'esprit. Et peut-être que, justement, dans le sens de ma réflexion, peut-être que nous avons assisté à beaucoup plus la disparition de l'importance de ce que peut avoir le sens moral hein, comme valeur d'un individu au profit d'attributs physiques et d'attributs peut-être même vestimentaires, etc., comme étant peut-être le point fondateur de la valeur de la personne. Et vous disiez aussi tout à l'heure que il y avait cette histoire de crainte de jugement d'autrui. Alors, et c'est là où on va peut-être ouvrir la parenthèse de la psychiatrie. Il faut savoir qu'il y a une pathologie qui s'appelle la phobie sociale, qui s'appelait la phobie sociale. Actuellement, on a changé de nom, ça s'appelle le trouble anxiété sociale, et qui est toujours mal utilisée par toutes les personnes qui l'utilisent. Parce que la phobie sociale, ça c'est défini par une crainte excessive du jugement négatif d'autrui. Le caractère excessif est très important parce que je pense que nous tous, à des degrés divers, on a une crainte légère à modérée du jugement péjoratif d'autrui, encore faut-il qu'il soit fondé et que nous-mêmes on y trouve du sens, mais c'est vrai qu'on a toujours, depuis qu'on vit en société, on a toujours cherché un petit peu le jugement d'autrui, l'aval d'autrui, c'est ce qui donne la normalité quelque part, hein, le fait qu'il y ait le jugement et qu'on soit jugé par la majorité, la majorité des personnes de telle ou telle manière. C'est vraiment ce qui définit la normalité au sein d'une société. Et donc, ce sont ces choses-là qui ont évolué au fil du temps et qui, aujourd'hui, et là, on raccroche un petit peu le sujet principal, à savoir les réseaux sociaux, oui. Les moyens de communication, etc. Les réseaux sociaux, aujourd'hui, ils permettent surtout et avant tout de publier des photos, des images de nous-mêmes. Donc forcément, ça renvoie à l'image du corps, ça renvoie à l'image du corps dans son intégrité, c'est-à-dire pas seulement est-ce qu'on est beau, est-ce qu'on a la peau claire, est-ce qu'on a une belle silhouette, mais ça peut c'est aussi comment on est habillé, quelle voiture on conduit, enfin des choses absolument matérialistes, hein, au sens vrai du terme, et qui du coup peuvent aussi témoigner aujourd'hui d'une grande peur de la part de tout le monde de pas être accepté, d'être rejeté parce qu'on n'est pas conforme à ce qui est attendu, donc c'est la norme justement, ce dont je parlais, et donc le jugement d'autrui aujourd'hui apparaît comme étant, le jugement péjoratif d'autrui apparaît comme étant une sentence qui est insurmontable.
D'accord. Alors justement, docteur Hassmann Lorabi, quelles peuvent être les dérives de ce culte du corps? Et puis, est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux sont dangereux finalement?
Écoutez, on a abordé le sujet la dernière fois des troubles des conduites alimentaires, oui. Et j'en avais parlé sous le point de vue médical, en disant qu'il y avait toujours une préoccupation extrême, hein, vis-à-vis des éventuelles difformités qu'on croit avoir au niveau de notre corps, et à ce que ça renvoie, hein, à autrui quand il va nous regarder, quand il va entre guillemets mettre les doigts sur ces difformités, quelle sera son opinion de nous, quelle valeur va-t-il accorder à notre personne, etc. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, les médias sociaux, ce sont des médias qui quand même permettent d'envoyer notre image au plus grand nombre de personnes, le plus souvent pas juste à des amis, mais ça peut aussi être à des inconnus, et c'est quelque chose qui permet surtout d'avoir un feedback en termes de clics de j'aime ou de followers ou de ce que vous voulez, c'est-à-dire des gens qui, d'un point de vue par quelque chose de numérique, grâce à ces réseaux sociaux, vont donner un peu leur aval ou leur assentiment ou leur approbation concernant telle ou telle photo, telle ou telle position, telle ou telle posture, tel ou tel habillement, etc. Et donc, si bien qu'on rentre, et c'est là, moi je pense, le vrai sens du problème, si bien qu'on rentre dans une espèce de dépendance pathologique à ce que peuvent en dire les autres. Et ce que peuvent en dire les autres va nous conditionner, quelque part, à adopter un masque social, c'est-à-dire ne jamais laisser transparaître le vrai soi, nous-mêmes, définis totalement et complètement. Il n'y a personne, toutes les personnes, ou la majorité des grands utilisateurs de médias sociaux sont des gens qui vont bien choisir leurs photos, qui vont peut-être même faire un setup de photos pour que la prise de vue soit la meilleure, pour avoir le meilleur angle, etc. Donc il y a quand même beaucoup d'artifices qui vont donner une vision édulcorée, mais artificielle justement, de la vie de la vie d'un tel ou de la vie d'une telle. Et ça, c'est problématique parce que vous parliez des jeunes. Les jeunes, notamment, quand on parle d'adolescents, ils n'ont pas ce recul nécessaire. Ils n'ont pas le recul nécessaire pour savoir identifier les artifices, savoir identifier beaucoup de choses. Et il y a une identification totale. Et puis, à partir de ce moment-là, va naître une espèce de besoin ou un désir d'être conforme à l'image de la personne qu'on adule. Ça peut être une star, ça peut être une connaissance vague, mais avec qui on est connecté via les réseaux sociaux. Et on va regarder ce qu'on croit être sa vie et être dans des processus de comparaison. Et ben forcément, comme je vous le disais, c'est édulcoré, c'est artificiel. Quiconque se lance dans cet exercice de comparaison va pouvoir trouver sa vie éventuellement bien triste, bien inintéressante, etc. Mais ça, c'est justement quand on ne connaît pas la vérité des choses, quand on n'est pas suffisamment expérimenté dans la vie, c'est là qu'on peut effectivement avoir ce genre de conclusions. Et ce sont des conclusions qui, surtout chez des personnes en devenir, hein, des adolescents, des enfants même, vont accéder au rang de vérité. C'est-à-dire que pour être heureux, il faut avoir telle ou telle mensuration. Pour être accepté par ses pairs, il ne faut pas avoir de ventre. Il faut avoir je dis plein d'exemples, il faut avoir les pommettes creusées, il faut ceci, il faut cela. Alors que Même si quand on regarde les différentes sociétés contemporaines, les critères de beauté, ils changent et varient d'un endroit à l'autre. Hein. Quelquefois même, dans une même région du monde, on peut avoir une société qui va plutôt valoriser la finesse, le fait d'être svelte, etc. etc. Et puis, juste à côté, une autre société qui va valoriser plutôt des formes et certaines autres choses. Vous voyez, donc, c'est extrêmement conditionné par la culture, hein, ça c'est évident. Et quand je parle de culture, là encore, j'englobe les médias, parce que les médias sont quand même les outils aujourd'hui les plus importants pour la culture, entre guillemets, et ils véhiculent beaucoup d'images, beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et justement, quelquefois, il peut y avoir des exemples d'images véhiculées qui sont à prendre avec des pincettes, surtout quand on a un regard un peu naïf. Hein, sur comment se passent les relations interpersonnelles et la vie en société.
Alors justement, je vais rebondir sur le côté naïf. Vous avez parlé de ces jeunes qui n'ont pas assez de recul face à cette image parfaite. Alors justement, comment est-ce que l'entourage, et j'entends par cela les parents également, comment peuvent-ils aider ces jeunes, ces adolescents? Quand devrait-on donc s'inquiéter et comment aider? Et je reviendrai à ma question. Est-ce que les réseaux sociaux, finalement, sont dangereux?
C'est vrai que je devais répondre à cette question. Les réseaux sociaux sont dangereux si on en fait un mauvais usage. Oui. Et si, justement, on est dans le cadre de l'usage de l'approbation, on va avoir quelqu'un qui va se connecter plusieurs fois par jour pour voir si telle ou telle photo, il y a eu des commentaires négatifs, est-ce qu'il y a eu des likes ou des dislikes, est-ce qu'il y a eu des choses comme ça, avec tout, à chaque fois une espèce d'anxiété qui va se déclencher à chaque fois que les choses ne se dérouleront pas comme prévu. C'est-à-dire qu'il y ait plein de gens qui commentent, qui aient des commentaires bienveillants, etc. Ça donne, les études ont démontré que même en choisissant nous-mêmes la photo qu'on veut bien envoyer sur un réseau social, il y a une anxiété qui est vraiment liée au feedback qu'auront nos contacts sur justement en jugeant notre photo à travers ces différents artifices techniques, comme je disais, les clics, les j'aime, etc., et les commentaires. Et donc, déjà, il y a cette dimension d'anxiété qui est causée par le fait de s'exposer au regard d'autrui, finalement. Hein. C'est ça le média social. Mais sauf que ça va être, on va être exposé au regard de plusieurs personnes, quelquefois des personnes pas forcément bienveillantes, qui sont systématiquement dans des commentaires négatifs, etc. Mais ça, justement, quand on est jeune et quand on est peu expérimenté, quand on recherche surtout de la reconnaissance, hein, c'est un peu ça l'adolescence. On veut être reconnu comme individu à part entière avec nos attributs et nos singularités, et bien à ce moment-là, si on est dans cette configuration, on peut imaginer que très rapidement, il peut y avoir une anxiété quotidienne qui est liée à ce genre d'usage. Les réseaux sociaux, on ne va pas les diaboliser, parce que les réseaux sociaux, quand on en fait un usage correct, c'est-à-dire pour garder le contact avec les amis, pour de temps en temps avoir des discussions, etc., personne ne dit que les réseaux sociaux sont mauvais. C'est très bon. Les réseaux sociaux sont très bons pour les personnes qui sont isolées géographiquement, etc., de pouvoir maintenir le contact, un contact humain, entre parenthèses, parce que c'est toujours via un écran, mais un contact social qui est rendu possible justement à ce moment-là grâce à la technologie. Mais une fois qu'on dévie de cette utilisation, qui est l'utilisation originale ou originelle des réseaux sociaux, une fois qu'on est dans la course à combien j'ai de followers, la course à mes petites vidéos, mes petites vignettes, mes petites stories, combien de fois les gens vont les voir, comment ils vont réagir, etc. Là, on est clairement dans une utilisation qui est problématique des réseaux sociaux.
Très bien. Comment ces parents qui nous écoutent peuvent-ils gérer cela au quotidien, docteur Athmane Lorabi? Je rappelle que vous êtes psychiatre.
Alors, c'est vrai que c'est une question, parce que j'ai envie de dire que tout commence un peu à la maison. Parce que si on a, par exemple, une personne qui est issue d'un foyer où elle a été constamment rabaissée, constamment jugée péjorativement, bien évidemment, constamment dénigrée, où on a toujours été cassant, où on n'a pas valorisé les réussites et valorisé même les échecs, ça c'est possible, et bien on forme le lit chez l'enfant qui est en train de grandir, on forme le lit de ce déficit d'estime de soi et d'amour de soi qui va faire que justement on va aller chercher cette approbation qu'on n'a pas eue ou avec laquelle on n'a pas grandi dans le regard des autres, ça peut être tout le monde et n'importe qui, mais c'est surtout les gens dont on a envie d'intégrer le groupe social.
D'accord.
Et ça, c'est très important en tant que parent d'avoir un discours toujours constant sur la matérialité des choses et le matérialisme. Parce que quand on parle d'attributs physiques, encore une fois, je veux bien qu'on fasse bien la distinction entre ce qui est moral c'est-à-dire l'honnêteté, tout ça, la persévérance, les valeurs morales qui sont les vraies valeurs, et les valeurs matérielles, qui l'éducation de nos enfants par rapport à ça commence avec juste des achats d'objets matériels. Déjà, le fait de pouvoir expliquer aux enfants que le fait d'avoir beaucoup de choses, ça ne fait pas de nous de meilleures personnes par rapport à ceux qui en ont moins, ça c'est déjà une très bonne entrée en matière. Et puis aussi, par rapport à l'acceptation de soi, il faut qu'on pousse nos enfants, et dans notre discours de tous les jours, à ce qu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. En d'autres termes, les remarques qu'on peut tous avoir de, par exemple, oh là là, t'as grossi, il faut que tu maigris, il faut que tu fasses du sport, ah t'es paresseux, t'es paresseuse, tous les petits mots en apparence anodins, et qu'on peut dire, nous, en tant que parents, mais quelquefois sans mesurer la portée de ce qu'on dit, ce sont des mots qui vont déclencher justement cette espèce de déficit de confiance en soi qui va nous rendre beaucoup plus vulnérables à l'adoption de ce genre de comportement et surtout à l'adoption de ce genre de doctrine, entre guillemets, dans la vie, c'est-à-dire que le plus important, c'est l'apparence. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut être traité, entre guillemets, traité pas dans le sens médical, mais traité avec nos enfants qu'à travers des discussions régulières dans le cadre de l'apprentissage de la vie.
Merci beaucoup, docteur Athmane Lorabi. Je rappelle que vous êtes spécialiste donc en psychiatrie à Casablanca. Merci d'avoir répondu présent une nouvelle fois à notre invitation sur Média.
Merci à vous.
Et c'est un entretien réécoutable, bien évidemment, sur notre site média1.com.